L'histoire de ma vie, Espérance de la gloire, c'était le cœur des moines de l'abbaye de Tamier. Pour vous, Henri Quinson, plus on aurait tout à l'heure une autre petite phrasade. Alors, je rappelle donc le titre de ce livre chez Nouvelle Cité, de Wall Street au quartier nord de Marseille, c'est le sous-titre. Et le titre que je trouve bien réaliste et bien joli, c'est Moines des Cités. Et en fait, donc, Tamier, alors ça surprend évidemment tout le monde, et vous arrivez là-bas. Et en fait, vous auriez eu tout pour être heureux, sauf une chose majeure, c'est que vous, il vous faut vos 8 heures de sommeil.
Voilà. C'est pas le père de Foucault, c'est l'inverse. Et lui, il trouvait que c'était pas assez dur. Et moi, je bute sur une histoire un peu stupide.
On est peu de chance, voilà, avoir la
voilà,
vie.
Voilà, donc 7 heures de
et
sommeil.
C'est bien d'avoir une vulnérabilité, quelque part.
Ça a été important, parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'avait jamais raté ses années d'études, etc. Bon, j'avais quand même eu évidemment des épreuves, comme tout le monde dans ma vie, à divers plans. Mais, se sentir qu'on ne fait pas partie du GIGN de l'Église, pas forcément les conditions athlétiques pour réussir à la trappe, mais cette question, en fait, m'a permis aussi de réexaminer justement ma place dans l'Église et dans cette tradition monastique. Et sans ce problème de sommeil, est-ce que j'aurais réussi à me poser la question que finalement le Seigneur lui-même sans doute me posait? C'est pas évident. Donc ça a été un moyen pour moi de réexaminer justement mon parcours, même si Tamier, pour moi, ça a été fondateur, que quand j'ai rejoint le monastère, je voulais y rester. Donc il s'agissait pas du tout d'aller à Tamier comme une université pour faire autre chose après, mais cette question du sommeil m'a obligé à me reposer une question suite à quand je suis entré au monastère, à cette vision que j'ai eue en 1989, vision qui n'avait rien d'extraordinaire, simplement je me suis vu à Marseille, à l'époque, entouré d'enfants maghrébins à qui je faisais l'école, et donc cette question, parce que je ne pouvais plus rester à Tamier, est revenue, et c'est mon père abbé qui m'a dit, mais...
Jean-Marc Thévenet, voilà, à l'époque,
voilà, ouais. qui m'a dit, mais il faudrait peut-être examiner cette question-là de la présence dans ces lieux avec des populations étrangères.
Et en fait, il ne faut pas oublier que Tamier a un lien tout particulier avec Tibérine, puisque des moines, et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque c'est vous qui avez traduit notamment le livre de John Riker sur les martyrs de...
John Kaiser,
sur les martyrs de Tibérine, et puis qui nous avait donné un prier 15 jours avec Christophe le Breton. Et Christophe, frère Christophe, c'est l'une des grandes figures de Tamier, parce que c'était un garçon peu commun, très artiste, très poète, très ami justement avec frère Philippe, frère Didier. Et pour vous, ça a été, je pense, par Tamier, ce lien très très fort avec l'Algérie, avec Tibérine.
Oui, c'est un des fils rouges aussi de mon livre, qui est, comme vous le disiez, complexe, facile à lire, mais complexe dans la mesure où il y a plusieurs éléments qui se côtoient et qui font que finalement j'accouche de cette vocation particulière. Et vous avez tout à fait raison de mentionner Tibérine, parce que Christophe et également frère Paul, donc qui font partie des des sept frères qui ont été assassinés en 1996 en Algérie. Je les ai côtoyés, ainsi que deux autres frères, dont Christian Chergé, le supérieur de la communauté, qui venait.
Vous avez beaucoup impressionné.
Je fais une description de la première fois où il passe au monastère, et pour moi c'était quelqu'un qui avait un charisme palpable, et évidemment à l'époque il y avait déjà donc un danger pressant qui pesait sur la communauté, et donc tous les frères réexaminaient leur vocation, le poids de leur existence, et au-delà des mots, on sentait vraiment une présence où ses frères se disaient peut-être c'était leur dernière visite à Tamier, leur dernière visite en France. Et donc on sentait que quand ils disaient quelque chose, c'était mûrement réfléchi, et on sentait tout le poids de cette existence très très exposée. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup sensibilisé à des questions que je me posais déjà avant d'entrer à Tamier, époque où commence à apparaître le débat sur le voile à l'école, et donc la montée de l'islamisme ou l'islam politique radical en Algérie, qui a des conséquences en France, puisqu'il commence à y avoir à ce moment-là des attentats, qu'en 1994, il y a le détournement d'un Airbus, et que à partir de 93, donc nos frères à Tibirine, avec qui on a des liens donc réguliers, Christophe nous envoie ses lettres au style un peu particulier, régulièrement, enfin, donc nous vivons vraiment ça avec eux, même si c'est à distance géographiquement, mais en grande communion, et donc le risque, à partir de 93, pesant sur les étrangers, devient réel, et que donc il commence à y avoir des assassinats, et puis à partir de 94, des assassinats de religieux, et donc en 93 aussi, l'arrivée d'un groupe au monastère qui aurait très bien pu mettre fin au jour des frères déjà.
Et finalement, on se rend compte que tout ça, c'est il y a un véritable maillage qui est fait au fond. Et des tas de petits détails, vous récupérez le psautier du frère Paul après son redépart pour Tibérine, comme vous dites, marqué par ses mains de plombier, enfin divisé, noirci par ses mains de plombier.
Voilà.
Et finalement, quand vous regardez en arrière, non pas le côté la Madame Lotte, hein, regardez, je crois que c'est important de savoir faire mémoire. Au fond, c'est tout le propre de notre foi. Et finalement, il y a des tas de petits cailloux qui sont sur votre
route. Ah bah oui, quand frère Paul me donne son psautier, son livre de prière, et qu'avec son petit humour pince sans rire, me dit « Écoute, moi je pars à Tibirine, toi tu arrives à Tamier, tu me remplaceras. » C'est vrai que cette parole, après son assassinat, me revient. Et le fait que j'habite maintenant à Marseille, dans une espèce de vie monastique urbaine, mais très comparable finalement à Tibirine, c'est-à-dire ce partage de vie avec des voisins, pour beaucoup d'entre eux algériens et pour presque tous musulmans, ça nous met effectivement dans une continuité que sa phrase pleine d'humour peut-être n'avait pas vu, mais qui prend tout d'un coup une dimension qu'elle n'avait peut-être pas nécessairement au départ. Et c'est important de ces chaînes de témoins et ces relations à la fois chronologiques et spirituelles avec ces frères qui nous ont marqués et dont on a parlé après publiquement à partir de 96 après leur enlèvement et puis leur assassinat, mais que donc nous côtoyons et dont nous avions vu l'évolution face à ce danger et face à des problématiques nouvelles, puisque la France aujourd'hui peut-être n'en a pas toujours conscience, mais est devenu le 15e pays musulman au monde, à peu près 15% de familles, pour la plupart pas très pratiquantes, elles vont pas aller à la mosquée le vendredi, mais qui ont cette référence culturelle, identitaire à l'islam, et puis on pourrait dire autant de la France, 3e pays en présence de la communauté juive aussi, et Marseille donc, où je suis, 200 000 musulmans, 80 000 juifs, sur une population de 800 000 habitants, donc c'est considérable, et c'est grâce à Tibirine que j'ai été sensibilisé aussi aux possibilités d'une forme de vie monastique au contact avec ces nouvelles réalités.
Alors, autre rencontre très forte pour vous, c'est le cher Enzo Bianchi, fondateur de la et prieur de la communauté monastique de Beauce et dans le Piémont en Italie. Enzo qui a des liens très forts avec Tamier, puisque on peut dire qu'il y a des échanges standards de moines. Les novices de Tamier vont traditionnellement à Beauce et puis c'est vraiment le passage direct.
Proximité géographique et puis
une connivence spirituelle qui est très très forte. Et pour vous, ça va être aussi déterminant d'abord la retraite prêchée par Enzo, puis ensuite quand vous prononcez le jour de la transfiguration 92 vos vœux temporaires, vous recevez, après 2 années de noviciat, vous recevez un petit fax d'Enzo justement pour cette entrée et ce pas de plus dans la communauté.
Oui, il y a toujours eu une espèce de proximité entre Enzo Bianchi et moi dès lors qu'on s'est rencontrés de manière personnelle lors de cette retraite que vous évoquez. Et ce qui m'intéressait beaucoup chez lui et qui m'a beaucoup aidé dans la suite, c'est que il y avait une volonté de renouer avec la vie monastique dans son essentiel, quitte à en modifier certaines formes, mais vraiment en s'inscrivant dans une tradition, en voyant comment aujourd'hui elle pourrait être mise en œuvre à nouveaux frais dans une culture nouvelle, Noël, qui est marqué bien sûr pour ce qui est de la pratique chrétienne par Vatican II, parce que la communauté de Beauzée est née dans le sillage de Vatican II. Et donc je crois que c'était important de faire cette expérience, et j'ai eu la chance d'être reçu par la communauté de Beauzée pendant 3 mois, et de voir vraiment de l'intérieur comment fonctionnait cette communauté, qui par exemple a un rythme liturgique de 3 prières par jour, alors que chez les trappistes c'était 7 fois par jour, dans lequel un certain nombre de frères travaillaient à l'extérieur, pas nécessairement en clôture, des formes d'accueil, d'hospitalité, très peu de prêtres, donc vraiment
ne l'étant pas lui-même.
Voilà, donc un retour vraiment à la forme laïque de la vie monastique qui était son point fort, me semble-t-il, au départ avec les Pères du désert. Donc toute cette manière de ressaisir l'essentiel de la vie monastique m'a été très utile par la suite, et donc c'est vrai que je dois beaucoup à Enzo Bianchi, dont je partage aussi l'amour pour les icônes,
donc, et pour la liqueur.
Et pour la liqueur, toutes les bonnes choses de la vie, mais effectivement très bon cuisinier, et il a sa cathédrale de liqueur, et donc ce rapport aussi à...
Qui est pour les amis.
Voilà, et donc c'est ce christianisme chaleureux dans lequel l'art, la culture aussi, donc exercer son intelligence dans la tradition chrétienne, je pense que ça c'était quelque chose de très fort et que j'ai trouvé grâce à lui.
Alors il y a une chose, la chose la plus étonnante que j'ai découverte de vous, Henri Quinson, dans ce livre, c'est la journée d'un mois à Zamier, c'est si jolies illustrations, je ne savais pas que c'était vous. Et alors à Beauzée, et ça va être aussi justement ces petits soleils.
Voilà, donc bon. Côté
la face cachée d'Henri Quinson.
Voilà, qui n'apparaissait pas à la banque d'affaires où je travaillais, qui n'apparaissait pas nécessairement voilà dans tous ces travaux aussi, soit manuels, fabrication du fromage, ou aussi mes recherches intellectuelles, mais c'est important, c'est une composante importante, et de fait à Tamier il y a toujours la vente de cette carte postale.
Ah bah oui,
laquelle,
je peux vous dire, je suis cliente.
Voilà, et qui paraît-il a un grand succès.
Absolument.
Ce qui m'a toujours étonné, mais il y a un côté un dessin un peu naïf, bon enfant, et que les gens aiment bien, parce que finalement la vie au monastère, on aime aussi en savourer le rythme concret, et donc c'est une manière aussi d'expliquer aux gens de quoi est faite la vie monastique à travers un dessin, puisque j'avais eu l'occasion autrefois de moi-même faire des dessins, des bandes dessinées à titre d'amateur.
Vous n'étiez pas doué, hein, c'est pas votre faute ça.
et de donner même des cours de bande dessinée au centre culturel de Courbevoie, je me rappelle, dans une vie antérieure.
Alors il y a aussi un très très, enfin il y en a beaucoup beaucoup, mais il y a un très beau passage de la chair, CHAIRE, à la chair, CHAIR, et vous prenez notamment cette phrase de Hans Urs von Balthasar, et vous prenez le passage justement de frère Paul, qui est à Tibérine, et pour la fête du Christ roi 92, alors qu'il est à Tamier, il vous rappelle que l'Église est un corps vivant, continuellement bousculé par le serviteur souffrant qu'elle cherche à suivre dans son abaissement. C'est bien de se rappeler cette vision-là de l'Église.
Oui, alors dans le prolongement de ce passage, je cite l'Évangile où Jésus est crucifié et il a ce dialogue avec celui qu'on a appelé ensuite le bon larron. Mais donc Jésus est en train de parler pas du tout en haut d'une chair, C-H-A-I-R-E, mais dans la chair, et il est crucifié. Et il me semblait important d'entrer dans ce mystère d'un Dieu qui certes va prendre la parole, mais il prend la parole à partir d'un corps, et en l'occurrence là d'un corps crucifié. Et donc ça rappelle de manière très claire l'importance du témoignage, c'est-à-dire que l'Église est d'abord appelée à vivre ce mystère de l'incarnation. Jésus pendant 30 ans n'a pas pris la parole, peut-être sans doute une fois pour sa bar mitzvah, Dieu lui-même a choisi de se donner ce temps d'être avec les hommes avant de prendre la parole, donc la parole évidemment a toute sa place, mais on n'est pas du tout là dans une Église qui parle en surplomb, hein, de ex cathédra, mais on est dans une église crucifiée et qui va délivrer sa parole crucifiée avec un autre crucifié. Et je crois que l'église d'Algérie et spécialement les moines de Tibérine ont su vivre cette grâce de vivre crucifié avec un peuple crucifié, et que de ce fait-là, les quelques paroles qu'ils nous ont laissées à travers les écrits de frère Christophe et de Christian de Gergé, tout spécialement, avec d'autres lettres aussi des frères, et la belle, le beau témoignage de frère Luc, médecin, enfin de tous les frères, je crois qu'elle a son poids parce que justement, ils ont vécu dans la chair ce mystère chrétien. Et ça, ça a été pour moi très important pour la suite, parce que il m'a semblé que, alors qu'on parle beaucoup de la mission, et aujourd'hui c'est la semaine justement des vocations avec une dimension missionnaire qu'on cherche à affirmer, je crois que c'est important. Tout en étant très libre dans ses paroles d'annoncer effectivement le règne de Dieu en annonçant l'évangile, je crois que tous les documents du magistère ces dernières décennies ont bien insisté sur la nécessité d'ancrer ces paroles dans le témoignage, et que donc dans la tradition monastique où on privilégie paradoxalement beaucoup le silence, je crois que c'est important de ce triptyque de travail, prière et hospitalité, d'en choisir un lieu qui soit vraiment signe d'évangile. Et les pères du désert, à l'époque où l'Empire romain était devenu chrétien, signifiaient que voilà, la foi chrétienne, ça n'était pas entrer dans un système où on avait quelques facilités avec les puissants et les riches. Les moines missionnaires au Moyen-Âge sont partis aussi habiter avec des tribus qui n'étaient pas chrétiennes, et aujourd'hui on voit tous ces noms de moines en France, en particulier Saint-Martin, qui donc avaient ce souci missionnaire, mais pas forcément d'une prise de parole immédiate. La parole venait après un témoignage de vie, c'est-à-dire travailler sérieusement, prier avec sincérité, et puis accueillir toutes les personnes qui se présentent au monastère. Et ça, je pense que c'est une intuition qu'on retrouve à ce moment-là très fort dans le monastère de Tibérine, et qui nous a beaucoup aidé à Marseille.
Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille, c'est le titre de votre livre, Henri Quinson, et qui est paru chez Nouvelle Cité. C'est vous aussi qui aviez traduit donc ce livre sur le martyr des moines de Tibérine, et puis qui était déjà l'auteur du Prier 15 jours, donc avec Christophe le Breton. Et effectivement, c'est grâce à John Geiger que nous étions rencontrés. On écoute encore Tamier, bien sûr. Et puis vous évoquez là quelqu'un qui nous est cher, Père Elred, et ses psaumes et ses tropères mis en musique, et ses amours qui nous attendent. C'est parfaitement résumé pour Tamier. Radio Notre-Dame.